Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Tech, un épisode un petit peu particulier puisque on ne va pas traiter d'actualité, hein, vous le savez, c'est le break de l'été, je suis en vacances avec mes enfants pendant 4 bonnes semaines pendant qu'ils ne sont pas à la crèche. Donc on s'occupe des petits, si tout va bien, à ce moment-là, en ce moment, quand vous écoutez cet épisode, je crois que je m'apprêterai à aller pour une semaine en caravane avec les deux enfants et ma femme, bien sûr. Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, si vous voyez que je me plains que les enfants ne dorment pas sur Twitter, et ben, vous saurez que ça ne se passe pas aussi bien que je l'aurais espéré. Mais je suis sûr que ça va être très, très drôle. On va parcourir la Finlande. Mais si je ne suis pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émission pour vous, bien sûr, puisque j'ai préparé des petites choses. Et aujourd'hui, oui, je vous dis bonjour quand même, je suis Patrick Béja, et on est dans le Rendez-vous Tech, où on parle généralement d'actu tech, même si aujourd'hui ça n'est pas le cas, puisqu'on va parler de l'histoire de la tech. Alors, l'histoire, pas tout à fait, hein, c'est les moments tech qui, qui m'ont marqué. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les moments les plus importants de l'histoire de la tech, même s'il y en aura certains, mais c'est un mélange avec les moments que Patrick a vraiment, qui l'ont vraiment marqué. Et ça peut être des choses un petit peu personnelles, et ça va être des choses pas que personnelles, évidemment. Donc, c'est peut-être mon parcours avec la tech, on va dire ça comme ça. Donc, il y aura un mélange de trucs qui m'ont touché, moi, et de trucs qui ont impacté l'industrie de la tech dans son ensemble. On va parler des années 80 et on va aller jusqu'à aujourd'hui, manière dont les choses ont évolué. Je suis sûr que je vais oublier certains événements importants ou peut-être que j'estimerai que certains événements importants ne sont pas aussi importants que vous l'estimez. Donc, vous pouvez venir me dire sur le Discord, par exemple, s'il y a des choses que j'ai oubliées dont j'aurais dû parler. Et du coup, je vais me lancer tout de suite avec, comme je le disais, les années 80. Et les années 80, moi, je suis né il y a un petit moment, hein, en 73, donc j'arrive à mes 50 ans, je ne le vis pas forcément très bien. Mais j'ai un petit peu d'expérience accumulée. Et dans les années 80, il y avait un truc qui était essentiel et dont tous ceux qui ont été à l'école à ce moment se souviennent, c'est le MO5 à l'école.
Depuis la rentrée scolaire 85, le plan informatique pour tous met en place des ordinateurs dans les écoles. Apprendre l'informatique à nos enfants, c'est les préparer aux emplois de demain. Pour nous, la France avance.
On en parlait d'ailleurs dans le moment où j'ai parlé de mes meilleurs souvenirs tech dans le live Battle for. Donc ceux qui ont, vous vous souvenez, l'événement caritatif que j'ai fait au printemps, ceux qui ont suivi ce truc-là vont avoir des petites redites, mais c'est un moment effectivement qui est important pour les gens qui l'ont vécu, parce que c'était l'introduction de l'informatique à l'école, et c'était pour beaucoup la première fois qu'on mettait les mains sur un ordinateur personnel. Et en regardant ça d'ici, j'ai l'impression que c'est presque, je me dis que c'était quand même assez, pas courageux, mais enfin assez efficace de l'éducation nationale et du gouvernement de commencer à présenter les ordinateurs personnels, parce que on parle de la fin des années, même pas, du milieu des années 80, et l'informatique personnelle, elle a commencé avec l'Apple, vraiment le premier vrai ordinateur, c'était tout début des années 80 avec l'Apple 1 puis l'Apple 2. L'Apple 2 c'est 84 je crois, donc ça venait de commencer, quoi, et on n'était pas dans un monde où tout va aussi vite qu'aujourd'hui avec Internet. Donc le fait qu'on ait eu, je ne sais plus en quelle année, peut-être 83, 84, 85, les MO5 à l'école, c'était, je trouve, quelque chose de vraiment efficace, parce que, évidemment, enfin, on savait tous que l'informatique, ou peut-être qu'on ne savait pas tous que l'informatique allait tout révolutionner, mais en tout cas, ils ont très vite mis en place ces programmes. Et je trouve que c'est assez positif. J'ai pas mentionné les tout premiers ordinateurs personnels ah merde, le nom m'échappe de l'ancêtre de celui qui est venu avant l'Apple. Je vais me faire insulter. Bon, enfin, en tout cas, il y en avait un, mais à l'époque, quand ils sont sortis, fin des années 70, début 80, c'était des ordinateurs personnels qui n'étaient que des petites boîtes sur lesquelles on n'avait ni programme, ni OS, ni clavier, ni rien. Donc, c'était pas tout à fait, pour moi, le début vraiment de l'informatique personnelle. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je mets l'accent sur le MO5, c'est que quand j'étais plus jeune, à ce moment-là, j'étais vraiment même pas adolescent, quoi. Tout début adolescent. Bah, pour moi, l'informatique, enfin les ordinateurs qui existaient dans le monde, les magazines, tout ça, c'était pas des trucs que je connaissais. J'avais un rapport à l'informatique qui était beaucoup plus personnel, d'où le MO5 à l'école. Donc ça, c'est le premier truc vraiment dont je me souviens. Il y a aussi, premier truc dont je me souviens, il y avait quelques trucs autour, hein. Il y avait des ordinateurs dans les magasins, j'en parle souvent, des personnes que je connaissais qui avaient, eux, des vrais ordinateurs. Et il y a un autre truc qui est pas tout à fait lié au, qui est pas tout à fait de l'informatique classique, c'est la console Atari. Donc je vais pas en parler beaucoup plus longtemps, je vais faire un épisode du rendez-vous jeu où je ferai le même trip sur le jeu vidéo, mais la console Atari, pour moi, c'était la première fois que j'ai eu à la maison un truc informatique. J'avais demandé un ordinateur, mes parents pouvaient pas se le permettre, ils ont acheté une console, et moi j'étais super content. Mais le vrai ordinateur, c'était quelques années plus tard, l'Amstrad.
Et mon gars, regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas, 61-28+, c'est un vrai micro, tes cours, tes maths, ton traitement texte, tu les programmes sur ta disquette, et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête, rigole à max sur des tas de jeux, super graphisme, 4000 couleurs, son stéréo dans le moniteur, pour un prix hyper sympa.
Nouveau 61-28+, Amstrad, sur cartouche et disquette.
Et là, je peux vous dire que l'arrivée de l'Amstrad à la maison, l'Amstrad CPC 664 avec lecteur de disquette, messieurs, dames, là, c'était quelque chose de vraiment important. Et on était, 83, 84 ? Donc oui, le MO5, c'était vraiment tout début des années 80, je pense. Et l'Amstrad, ça devait être 84 peut-être, je crois, ou 85. Et là, j'avais un ordinateur que je pouvais programmer, sur lequel je pouvais faire des trucs, jouer à des jeux. Il y avait un lecteur de disquettes et pas un lecteur de cassettes. Donc, cette période-là où on avait les MO5, les TO7, les Sinclair, les Amstrad, c'était une période d'effervescence complète dans l'informatique, où elle commençait à arriver dans les maisons. Et c'était une période importante pour la tech, parce que il y avait énormément de constructeurs différents. C'était pas du tout consolidé à ce moment-là. Il y avait pas du tout de consolidation. Il y avait plein de constructeurs qui s'essayaient à ce truc-là, que ce soit Commodore, Atari, Amstrad, Sinclair. Il y en avait plein. En plus des PC qui commençaient à arriver avec IBM et des Apple. Donc ils étaient un petit peu partout, tout le monde en parlait, ça coûtait cher encore, mais il y avait des acteurs qui arrivaient à proposer des offres raisonnables, on va dire, et tout le monde se demandait à quoi ça va servir. Il y a d'ailleurs des citations assez célèbres de gens très, très sérieux dans cette industrie qui disent « personne n'aura besoin d'ordinateur à la maison », ce genre de choses. C'était un petit peu avant. Mais donc ça, c'était le début vraiment de l'entrée de l'informatique dans les foyers. Dans certains foyers, on n'est pas... l'arrivée dans tous les foyers, je pense que ça se fera avec Internet beaucoup plus tard. Mais là, ça commence. Et il y a un truc, on revient à l'industrie, il y a un truc qui est essentiel, qui va transformer toute l'industrie, au-delà de la sortie des produits Apple. Moi, le truc que je retiens dans cette période-là, c'est la décision d'IBM, l'erreur monumentale d'IBM, de laisser Microsoft faire leur OS pour leur PC. À cette époque-là, IBM fait des ordinateurs d'entreprise. Et c'est des grosses armoires, ça coûte super cher, l'informatique personnelle, c'est vraiment pas un truc auquel ils croient. Mais Apple a tellement de succès avec ses ordinateurs, qui sont des ordinateurs personnels, qu'IBM se dit « Ok, bon, en fait, il va falloir qu'on fasse un truc. » Et ils développent leur PC, leur personal computer, et ils se disent « On va écraser Apple, ça y est, c'est terminé. Nous, on vend du matériel, on vend des ordinateurs, on est des gens sérieux. Pff, ça va se faire bien. » Mais on a besoin d'un petit truc de logiciel là pour faire tourner notre machine. On va appeler Microsoft, qui est une boîte qui a le vent en poupe, qui fait des logiciels. Ils vont nous faire un OS et voilà. Et ils font une erreur monumentale. Si vous connaissez pas cette histoire, c'est vraiment intéressant. On en reparlera peut-être un jour. Mais ils font une erreur monumentale qui est de laisser à Microsoft le droit d'exploiter cet OS avec d'autres constructeurs. Parce que pour IBM, l'important dans l'informatique, c'est le matériel. Le logiciel, c'est accessoire. C'est le matériel qui compte. Parce que traditionnellement, c'est comme ça que ça se passait. Sauf que il va y avoir évidemment toute l'aventure des clones. C'est pas de Star Wars, mais des clones de PC. C'est-à-dire que il y a des constructeurs qui vont faire du rétro engineering pour construire des machines qui sont compatibles avec le système d'IBM, et ça s'appelle pendant très longtemps les PC compatibles, et tous ces PC-là, eh ben, ils vont avoir le même OS construit par Microsoft, enfin construit, conçu par Microsoft, qu'ils ont d'ailleurs acheté puis modifié à quelqu'un d'autre, c'est une histoire marrante, mais ils ont l'OS de la machine. S'ils peuvent reproduire le matériel, tout ce qui leur manque, c'est le logiciel. Et donc, ils ont besoin de l'OS de Microsoft. Et Microsoft va leur vendre des licences pour l'utilisation de l'OS. Parce que ça, ils ne peuvent pas vraiment le reproduire. Il n'y a pas... Légalement, faire du rétro-engineering, c'est tout à fait légal. Mais copier le code, tu n'as pas le droit. Donc, on est obligé... On peut se passer de Microsoft pour faire un PC, mais on ne peut pas se passer de Microsoft. On peut se passer d'IBM pour faire un PC, mais on ne peut pas se passer de Microsoft. Donc, c'est à ce moment-là, dans ce contrat-là avec IBM, que Microsoft est devenu les rois de l'informatique du monde entier, quoi. Donc, c'est le moment le plus important. Je parle de moment de la tech, au-delà des MO5 et des Amstrad à la maison. Le moment le plus important de cette période-là, pour moi, c'est ce contrat, cette signature de contrat, le moment où Bill Gates est allé dans les bureaux d'IBM pour signer ce contrat et qu'il a réussi à faire un contrat avec cette clause-là où il garde le droit d'utiliser l'OS, de faire des licences de l'OS à d'autres constructeurs. Mais il n'y a pas que Microsoft, j'ai mentionné Apple à plusieurs moments évidemment, et dans le cas d'Apple, ce qui est le plus important, Je mettrai pas, si je dois choisir un truc, c'est pas les Apple, l'Apple 1 qui reste anecdotique au niveau des chiffres, ni même l'Apple 2, l'Apple 2C, etc. C'est évidemment l'arrivée de macOS, qui là aussi a une histoire passionnante, le développement de macOS et toutes les étapes par lesquelles c'est passé, et l'excentricité de Steve Jobs, etc. Mais on va pas parler de tout ça. Je veux juste parler du fait que macOS, c'était l'arrivée des interfaces graphiques en 1984. Encore une fois, l'informatique personnelle n'existe que depuis quelques années. Et Steve Jobs va au Xerox Park. Xerox, vous savez, c'est le constructeur de photocopieurs. Ils avaient un centre de recherche qui s'appelait le Park, Palo Alto Research Center. Et dans ce centre de recherche, il y a des ingénieurs géniaux et géniales qui développent des technologies de fou que Xerox n'utilise pas vraiment. Il les laisse dormir, ils y croient pas trop, ça les intéresse pas. Mais Steve Jobs arrive là-dedans, il voit les interfaces graphiques. Donc, pour le contexte, encore une fois, pour ceux qui s'en souviennent pas, avant ça, l'informatique, c'était que du clavier, du texte vert sur un écran. Il y avait rien d'autre. Chez Xerox, ils ont développé toute l'interface graphique avec le bureau, de la souris, des feuilles qu'on déplace, la métaphore des feuilles qu'on déplace sur le bureau, etc., et des documents. Et ben Steve Jobs, il voit ça, il se dit, mais putain, j'ai le... c'est le futur de l'informatique, le futur du monde que je vois là. Et donc, il se met à développer un système qui utilise cette technologie, il s'arrange avec Xerox. D'abord, il essaye de travailler sur un ordinateur qui finalement lui sera retiré par la direction d'Apple. Bref, il y a toute une histoire avec le Lisa et tout ça. Il développe le Mac et l'arrivée du Mac en 1984, évidemment, est un moment majeur dans l'informatique puisque c'est de là que tout va être copié. Tout va être copié sur l'interface graphique du Mac qui venait de Xerox en fait. Et donc macOS, la sortie de macOS, le développement de macOS est un moment absolument majeur dans l'informatique. À noter que Microsoft est toujours dans les bons ou dans les mauvais coups puisqu'ils travaillaient avec Apple. Ils étaient fournisseurs de logiciels hein, à l'époque, mais ils travaillent avec Apple pour développer des logiciels pour macOS. Et en parallèle, ils travaillent avec IBM pour développer leur OS. Et à force, bah, ils se disent, on va commencer à travailler sur un OS qui va utiliser les interfaces graphiques. Alors, il y a des débats sur le fait qu'ils aient copié l'interface du Mac. C'est assez peu... Il y a peu de doutes, mais en même temps, l'interface, elle existait chez Xerox avant. Donc, c'est pas Apple qui l'a inventé. Quoi qu'il en soit, la brouille entre Steve Jobs et Bill Gates commence vraiment à ce moment-là, quand Steve Jobs se rend compte que Bill Gates est en train de travailler sur une interface graphique pour ses OS sur PC. Bill Gates, c'est le type qu'on a sous-estimé pendant des années. Chez IBM, on l'a sous-estimé. Chez Apple, on l'a sous-estimé. Et au final, il a conquis le monde avec Windows, quoi. Je dis conquis le monde, mais il y a un autre moment important. Bon, à partir de là, il y a toutes les histoires avec Apple, Steve Jobs qui se fait virer ou qui part comme un prince pour pas se faire virer, la croissance de Microsoft totalement folle, la croissance des PC en parallèle des autres machines. Je pourrais vous parler des Amiga, des Atari ST, etc. Mais je vais sauter en avant de quelques années pour parler de Linux.
Linus Torvalds a créé un système informatique qui a pris toute l'industrie par surprise. Linux, un système d'exploitation aujourd'hui utilisé sur 8 millions d'ordinateurs à travers le monde.
Le magazine Wired considère ce jeune homme comme le nouveau chaman Vinminen et déclare que son système d'exploitation Linux est le plus magnifique produit d'Internet.
Parce que l'autre grand moment hyper important dans l'informatique qui vient juste après macOS, enfin c'est quelques années après, c'est quoi, 88, 89, Linux peut-être, c'est Linux, l'arrivée de Linux. En fait, Linus Torvalds, développeur finlandais d'ailleurs, se dit qu'il va développer un OS qui va être libre et ouvert, et il copie un OS qui existait déjà, qui s'appelait Unix, qui était utilisé pour les gros serveurs. Il y avait à l'époque une partie de l'informatique qui était l'informatique personnelle avec des ordinateurs individuels, mais il y avait aussi beaucoup de serveurs, c'est-à-dire qu'on avait un terminal connecté au serveur, et donc sur le terminal, il n'y avait pas grand-chose, mais toute la puissance de calcul était sur le serveur, et la plupart de ces serveurs tournaient sous Unix. Linux, c'est un petit peu Unix en open source pour les ordinateurs personnels qu'on peut installer sur les ordinateurs personnels et pas que, on peut l'installer à peu près partout. Je suis sûr que des spécialistes vont hurler quand je décris comme ça, mais je pense que c'est une généralisation, une explication assez simple et relativement valide. Et donc Linus Torvalds développe Linux, monte une équipe autour de lui et le truc, la raison pour laquelle c'est important le développement de Linux, c'est pas que il y a des gens, il y a les amis barbus qui vont dire oh l'open source c'est trop cool, utilisez Linux plutôt que Windows, ne vendez pas votre âme au capitalisme, tout ça. C'est pas ça qui m'importe là-dedans. C'est que on a l'impression encore aujourd'hui, et j'en parle parfois dans l'émission, on a l'impression aujourd'hui que Linux est un échec. C'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi à conquérir les territoires qu'il voulait conquérir. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Linux a conquis à peu près toute l'informatique entre guillemets invisible. Linux est présent dans l'infrastructure du monde entier. La plupart des serveurs tournent sous Linux. Il y a très très peu de serveurs qui tournent pas sur Linux. Mais même au-delà de ça, on va se dire ok, on n'a pas d'ordinateur personnel qui tourne sous Linux. C'est vrai, c'est relativement rare. Mais Linux sert de base à Android, et donc, d'une certaine manière, Linux a non seulement conquis toute l'informatique d'entreprise et de serveurs, mais ils ont aussi conquis une énorme partie d'un truc auquel on viendra plus tard, qui est l'informatique mobile. Donc, le développement de Linux, quand on se moque gentiment des gens qui promeuvent l'open source comme alternative à absolument tout, on a tendance à penser que, oui, bon, ça sert à rien, Linux. Et évidemment, ça ne pourrait pas être plus faux. Linux est un succès absolument... Enfin, il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire à quel point Linux est un succès. Sans Linux, le monde d'aujourd'hui n'existe pas. Beaucoup plus que sans Windows ou que sans l'iPhone. Alors qu'évidemment, ce sont des produits grand public et business plus importants peut-être dans l'image des gens. Mais toute l'infrastructure du monde informatique repose sur Linux. Donc oui, Linux est un moment ultra, ultra important. Je pourrais ajouter un autre truc, on passe du coq à l'âne presque, mais je pourrais parler aussi, à peu près à la même période, du Minitel.
Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service.
J'appuie sur envoi, voilà.
Oh, viens voir cette petite annonce, exactement celle que j'avais lorsqu'on s'est rencontrés. Une dauphine bleue, intérieur rouge.
Avec le volant sport ?
Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS.
Parce que là aussi, on a tendance à se moquer du Minitel, à dire « Ah, oh, c'est marrant, les Français qui étaient en retard sur Internet, etc. » Mais le Minitel a été développé dans les années 80. Et là encore, de la même manière qu'on a eu de l'informatique à l'école, très très vite, le Minitel, c'était les réseaux, enfin les connexions type Internet pour tout le monde. On a eu un déploiement de cette technologie qu'on n'a jamais vu ailleurs, qui était tellement rapide grâce au Minitel, qui n'était pas si cher que ça, enfin, pour ce que c'était, évidemment, les connexions, la communication coûtait très cher après. Mais bien sûr qu'on avait les BBS, les serveurs, les AOL, les machins aux États-Unis, mais c'était pas du tout, j'ai pas les chiffres, mais je suis à peu près certain que le pourcentage de la population qui avait un Minitel par rapport au pourcentage, enfin, le pourcentage de la population française qui avait un Minitel par rapport au pourcentage de la population américaine qui avait accès au BBS, on est à un ordre de grandeur plus grand en France. Donc, la manière dont l'ingénierie des PTT en France a conçu, imaginer un produit et designer vraiment un produit qui soit simple, efficace et fabricable et déployable, c'est un exploit complètement incroyable. Je ne sais pas si on le célèbre assez, en fait, dans le pays. Il y a vraiment un savoir-faire et une ingéniosité dans la conception du Minitel qui est un petit peu oubliée, je crois. Donc, j'en parle ici. Alors, évidemment, il y a plein de trucs à dire sur le Minitel. On pourrait faire un épisode entier sur le Minitel. Mais je pense que, au même titre, en France en tout cas, au même titre que d'autres moments ultra importants de l'informatique et de la tech, bah, le Minitel doit être mentionné parce qu'il a familiarisé toute une énorme partie de la population avec cette idée de connexion et de serveur et de communication en ligne, etc. Je dois mentionner aussi un petit peu plus tard mon passage à l'IUT, à mon IUT d'informatique, parce que c'est, enfin IUT, c'est mon, oui, l'IUT d'informatique, je répète, mais c'est le moment où j'ai été en contact avec Internet pour la première fois. C'est mon premier contact avec Internet.
Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet, dont on parle beaucoup. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
Et là encore, je l'évoque parfois dans l'émission, mais c'est un moment où ma tête a explosé. Mon mind a été blown, comme le disent les jeunes. Il faut se souvenir, je parlais du Minitel à l'instant, on était en tout début des années 90. C'est-à-dire que Internet, c'était même pas une vague idée dans les rêves des informaticiens français en général. C'était des trucs qu'on savait même pas vraiment que ça existait. J'exagère, mais à peine. Et j'arrive à l'IUT, Donc, chez les chercheurs, chez les académiciens, dans les universités, il y avait des connexions de ce type. Donc, ce monde-là connaissait Internet. Mais pour le grand public, c'était des trucs dont on n'avait même pas entendu parler dans les magazines informatiques, quoi, limite. Et donc, j'arrive à l'IUT. Enfin, il y a, je ne sais plus qui, un autre étudiant, des gens de deuxième année ou ce genre de choses, qui m'explique comment ça fonctionne. Et on n'avait pas de... on avait des terminaux graphiques avec X sous Unix, mais il n'y avait pas d'Internet graphique. À l'époque, Internet, c'était uniquement des serveurs... alors, il y avait du FTP, il y avait du RMTP, les newsgroups, il y avait du mail, il y avait ce genre de choses, mais tout passait par le texte. Et même ça, le fait de se connecter, tu allais sur ton terminal, tu faisais FTP avec les séries de 4 chiffres pour l'adresse IP... Et tu naviguais dans les dossiers comme tu naviguais sous DOS dans les dossiers avec l'interface texte, CD, machin, dire quels sont les trucs, et puis les téléchargements. C'était fou. L'idée que je pouvais, depuis mon terminal à l'université, me connecter à un serveur aux États-Unis et en direct télécharger des fichiers texte ou des fichiers graphiques, mais... C'était vraiment, quand je vous dis, mon mind était blown, parce que je pense que la plupart des gens qui ont eu un contact avec Internet, c'était déjà à l'époque où les navigateurs étaient communs, et c'était un moment où l'idée d'Internet était présente dans la société. Donc on était familiarisé avec cette idée, on savait à quoi ça pouvait servir, on savait machin. Au moment où je suis arrivé là, c'était... je sais pas, c'était comme montrer le feu à un Cro-Magnon, quoi. Enfin, les Cro-Magnons, ils avaient le feu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est genre, mais de quoi tu me parles? C'est des trucs, c'est possible. Et on va revenir à un moment, un ou deux moments plus tard, qui sont à peu près aussi mind-blowy. Mais Internet, et Internet pour moi, au tout début des années 90, c'était... pour moi, évidemment, un moment fou. Et Internet est un moment qui a évidemment tout changé dans le monde et dans l'informatique. C'est évident. Si j'avance un tout petit peu, j'ai commencé aussi à cette époque à monter mes propres PC. Et il faut se souvenir à quel point c'était un univers, je dirais, pas en effervescence, mais chaotique. Peut-être que c'est ça le bon terme. C'était hyper chaotique, le monde du PC. On était à 5-10 ans, peut-être allez, 10 ans du lancement du PC par IBM. C'est pas si long que ça. Et il y avait encore énormément de petits constructeurs. Quand je dis de petits constructeurs, il y avait des boutiques qui achetaient les pièces, qui montaient les PC, qui avaient une marque et qui vendaient ça, mais ils avaient une, deux boutiques dans Paris, quoi. Et c'était leur marque. Et ils montaient ça avec les pièces détachées. Aujourd'hui, ça se fait plus vraiment. Ça se fait plus vraiment comme ça. Il y a une énorme consolidation qui s'est faite. Il y a, je sais pas, les Dell, les HP, les trucs comme ça. Et on a des vraies grandes sociétés qui ont fait leur business sur l'assemblage industriel de PC. À l'époque, c'était tu vas essayer de trouver les pièces là où tu peux. Alors oui, il y a des marques, évidemment. Mais au début des années 90, milieu des années 90, t'étais pas sûr que ça marche quand tu mettais tous les trucs ensemble, tu écumais les magazines pour trouver les meilleurs prix pour telle et telle pièce, etc. Et le fait de monter mon premier PC comme un mécano et de l'allumer et que ça marche, c'était un moment fou. Là aussi, c'était peut-être dans le milieu des années 90, quelque chose comme ça. C'était un moment complètement fou parce que tu avais la possibilité de faire ta machine comme tu le voulais. Enfin, oui, le concept est dingue, quoi. Le concept est dingue. Et ça fonctionnait. Et tout, il y avait plein de gens qui faisaient ça. C'était un moment de geekerie intense. Je me souviens, je crois que c'était avec mon pote Danny où on était allé s'acheter des PC. Ça devait être à la rue Montcalais à l'époque. Est-ce que c'était mi-90? Je pense. Peut-être que j'ai commencé même un petit peu avant, mais je sais plus si mon premier PC monté venait des achats de la rue Montcalais ou pas. Je me souviens pas. Avant que peut-être qu'elle ne soit connue comme la rue Montcalais par le commun des mortels. Mais bon, c'était un gros moment pour moi. Et on arrive à la fin des années 90, et la fin des années 90, le moment le plus important, on ne peut pas ne pas le mentionner, c'est évidemment le retour de Steve Jobs chez Apple.
To start us off in the right direction is an individual who really needs little introduction. After all, Steve Jobs has been around since the very first Macintosh. So please join with me now and welcome from Apple Computer, Steve Jobs.
Le retour de Steve Jobs chez Apple, c'est l'archétype du génie de la tech entrepreneur, Steve Jobs. Bon, vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le décrire, mais il était tellement erratique qu'il avait été viré d'Apple, et après ça, Apple a pris tellement de mauvaises décisions qu'ils étaient menacés de disparition, vraiment. C'est marrant parce que Steve Jobs était à la fois extrêmement toxique et nocif pour la boîte, et en même temps, le génie visionnaire qui fait qu'elle fonctionnait tellement bien. Parce que la croissance d'Apple qui sortait de nulle part face à des IBM, des HP, des trucs comme ça, n'aurait pas été possible sans Steve Jobs, c'est évident. On parle beaucoup de Steve Wozniak qui était à la base de la construction des premières machines, et c'est vrai qu'il était évidemment, enfin c'est un ingénieur de génie, mais il y en a beaucoup beaucoup, j'en sais rien, 5, 10, 20, 30, des Steve Jobs, il n'y en a pas autant. Quel que soit le nombre d'ingénieurs qui existent, des Steve Jobs, il n'y en a pas autant. Et sans Steve Jobs, Apple ne peut pas exister. Encore plus, disons que Steve Jobs est plus important à Apple, à la croissance d'Apple, à sa création, que Steve Wozniak, qui est très gentil, qui est très sympa, qui est allé devenir, qui est parti parce qu'il ne voulait pas de cette pression, et c'est tout à son honneur. Mais Steve Jobs qui quitte Apple, c'est vraiment le début de la fin pour Apple. Sauf que, avant la vraie fin, on revient donc à la fin des années 90, Steve Jobs revient chez Apple, là encore, il y a une histoire incroyable qu'on pourra raconter. Steve Jobs revient chez un Apple qui est en chute libre et critiqué de toutes parts parce qu'il n'est pas un informaticien. Le monde rigole parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Steve Jobs ? Certains, évidemment, qui croient au Messie se disent « Ok, ça y est, on est sauvés » parce qu'il y avait déjà cette adoration d'Apple chez les Happy Few qui pouvaient se le permettre financièrement et qui étaient adeptes de la marque. Tout ce mélange, disons qu'il y avait quand même, de la part des gens, entre guillemets, qui regardaient ça de l'extérieur, beaucoup de scepticisme. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il a eu une chance énorme, c'est que Microsoft était dans la merde. Pas dans la merde parce que ça allait pas bien pour eux. Microsoft était dans la merde parce que ça allait trop bien pour eux et ils étaient sous le coup d'enquêtes et de menaces d'action anti pour des questions d'anti-compétitivité, etc. Donc, ils ont envoyé énormément d'argent à Apple et la première conférence après le retour de Steve Jobs, ça devait être à Macworld, je crois, ou c'était pas encore les WWDC, quoi qu'il en soit, il y a eu cette image catastrophique où Steve Jobs était sur scène et il y avait un écran géant, géant derrière avec le visage de Steve Jobs, le visage de Bill Gates qui apparaît avec Steve Jobs tout petit sur scène. C'était 1984-esque au possible, et d'autant plus ironique que le lancement du Mac en 1984 s'est fait avec l'imagerie de 1984, le livre, etc. Mais c'était orwellien, quoi, cette scène. Mais il n'empêche, ça a permis, donc, Microsoft avait intérêt à ce que Apple survive pour qu'ils aient un concurrent. Et du coup, ils ont envoyé, je sais plus combien, 400 millions, un truc de fou comme ça à l'époque, à Apple. Un investissement pour, en gros, c'était déguisé pour qu'il survive. Steve Jobs prend cet argent, bien sûr avec beaucoup plus d'humilité et d'expérience, je crois, qu'à l'époque où il a quitté Apple des années plus tôt, et commence à travailler. Et là, on arrive. Le retour de Steve Jobs, en fait, il ne serait pas important si ça ne donnait pas une série de produits tous plus importants les uns que les autres dans l'informatique, qui vont chacun, coup sur coup, complètement transformer l'informatique. C'est-à-dire que là, on est fin des années 90, et le premier d'entre eux, c'est évidemment l'iMac. Pourquoi l'iMac ? Parce que jusque-là, les ordinateurs personnels, c'était des boîtes beige, super moches, que personne ne voulait voir, qui était posé sous un bureau et qui n'était pas du tout sexy et qui n'était pas intéressant, qui n'était pas séduisant pour les gens normaux. L'iMac arrive, couleur acidulée, transparent, on voit à l'intérieur, c'est un tout en un. Un coup de design de génie, bien sûr, avec Johnny Ive et Steve Jobs qui commencent leur collaboration. Coup de génie parce que ça rend l'informatique sexy. Et là, je pense que la plupart d'entre vous s'en souviendra. Hein. On est il y a à peine 20 ans, donc je pense que... bon, peut-être que la plupart d'entre vous s'en souviendra pas. Mais si, quand même. Mais on est dans un coup de génie qui non seulement rend l'informatique sexy, mais en plus arrive à un moment... où l'informatique devient utile en dehors du bureau. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de puissance pour commencer à numériser différents aspects de notre vie. Et l'iMac est vendu en partie comme le hub numérique de notre vie. C'est-à-dire qu'on commence à avoir de la musique, des images qui sont numérisées. Et donc l'iMac arrive sexy pour les gens normaux, à un moment où les gens normaux commencent à avoir besoin d'un ordinateur à la maison. Donc, moment de transition symbolique du passage de l'informatique comme truc de geek, truc de bureau, à bah, ça commence à arriver pour le quotidien. Mais il ne s'arrête pas là. Évidemment, il n'y a pas que l'iMac. On parlait de numérisation de l'informatique et de la musique. Bah, il lance iTunes. iTunes qui facilite infiniment la gestion de musique, parce que jusque-là, c'était des fichiers MP3 qu'on avait dans des répertoires, des machins. Non, là, ça te fait un catalogue. Alors, ça a des contraintes, évidemment, comme tout ce que fait Apple. Hein. Mais iTunes, d'une part, pour l'organisation de nos fichiers de musique, c'est important. Mais évidemment, l'iTunes Store, qui arrive, je ne sais plus, un an plus tard, qui est, on le sait, on le comprend, hein, ça a complètement transformé, atomisé, recomposé l'industrie de la musique entièrement. Et ça, c'était dans l'optique du hub numérique qui est devenu le Macintosh et qui a pris beaucoup de temps au PC. Enfin, c'était toujours possible de gérer les choses avec le PC, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué, beaucoup moins simple, etc. Donc, iTunes et l'iTunes Store, moments fondamentaux, et dans la foulée, l'iPod. Parce que, bien sûr, les deux vont ensemble.
And this is what the front of it looks like. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, matter of fact. There it is, right there. This amazing little device holds 1,000 songs. And it goes right in my pocket.
Mais l'iPod, qui, évidemment, dépasse encore l'iMac et devient une icône sociétal, de mode. Et là, la transformation entre boîte beige sous le bureau et sexy à la maison avec l'iMac, et du coup, c'est juste cool d'avoir un de ces produits, est accompli. Et tout ça, c'est quelques années, je sais, j'ai pas les dates ici, mais c'est quoi, 3 ans, 4 ans? C'est incroyable. Et c'est pour ça que Steve Jobs a cette image de génie de la tech, de designer exceptionnel. Parce que lui, son boulot, il va pas coder. Il codait à l'époque des premiers Mac, mais son boulot, c'est pas de coder. Son boulot, c'est de dire oui ou non. Oui, on va inclure ça dans notre produit. Non. Et surtout, il a dit souvent, le plus dur à faire, c'est de dire non, on veut pas d'une fonctionnalité. Parce que tu perds quelque chose quand tu retires une fonctionnalité. Mais tu peux aussi gagner de la simplicité d'utilisation, de la simplicité de design. Enfin, il y a plein de choses. Et lui, son boulot, c'est juste de dire oui ou non à certains trucs et de demander. Alors, il faudrait le faire un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça. Mais il n'est pas, je ne serais même pas surpris qu'il ne soit pas à l'origine complètement des... Enfin, ce n'est pas lui qui va aller souder les fils ensemble, concevoir les puces. Ce n'est pas lui qui fait ça. Mais malgré... Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Oh, c'est un... Comment dire, et il n'est pour rien, il ne fait que du marketing, machin. » Évidemment que non. Et il y a... avec l'Apple 1, l'Apple 2, macOS, et parce que ce qu'il a fait entre-temps, Next, c'était pas... Même s'il y a ça donné la base de macOS X, Next en lui-même n'était pas une boîte qui a eu un énorme succès. Mais là, début des années 2000, iMac, iTunes, iPod, c'est une série complètement improbable de succès dans ce domaine. Et évidemment, on le sait, il ne s'arrête pas là, parce que en moins de 10 ans, là encore, on parle de période de 10 ans, je ne sais plus quand il est revenu, ça devait être 97, 98, 99, on arrive aux iPods et les iPods mini et tout ça en 2002, 2003, 2004. Quelques années après, arrive l'iPhone. L'autre moment complètement fou de la vie d'Apple, c'est 2007, hein, la présentation de l'iPhone. Là, on commence à arriver au moment dont vous vous souvenez vraiment. Ce qui me marque, moi, c'est à quel point on est proche de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que entre l'iMac, je vais quand même essayer de trouver les dates parce que comme ça, je vais pouvoir appuyer mon propos. Tac, tac, tac. L'iMac, 98, voilà. La sortie de l'iMac, c'est l'été 98. Donc, on est à moins de 10 ans de la sortie de l'iMac, quand l'iPhone est annoncé. C'est-à-dire que c'est moins de 10 ans, et aujourd'hui, depuis la sortie de l'annonce de l'iPhone, on est à 16 ans, quelque chose comme ça. Donc, presque le double. Donc, vous imaginez la frénésie d'innovation et de changement qu'il y a eu dans cette période, avec le retour de Steve Jobs. En moins de 10 ans, on passe de l'iMac, qui fait rentrer l'informatique dans les maisons, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, à l'iPhone qui révolutionne toute l'informatique personnelle et qui supplante toute l'informatique personnelle. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, l'essentiel de l'informatique se fait sur smartphone, beaucoup plus que sur desktop. Donc, 2007, le moment d'annonce de l'iPhone, évidemment un pivot, et un pivot qui est emblématique parce que avec son génie de la présentation, Steve Jobs crée ce moment mémorable où on a la présentation des fonctionnalités de l'iPhone, où il dit un Internet Communicator, le meilleur téléphone qu'on ait jamais fait et un iPod super incroyable.
So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
Et il le répète en boucle, et tout le monde s'en souvient. Tous les gens qui ont regardé, qui ont vu cette présentation, tout le monde s'en souvient. Il y avait des rumeurs, il y avait des... Mais... Et d'ailleurs, là aussi, il y a des histoires à raconter parce que le truc, il n'était pas prêt, ils n'étaient pas sûrs que ça fonctionne du tout, ça buguait tout le temps. Et malgré tous les avertissements, il a décidé, non, on y va, on présente. Et c'est pour ça que je suis toujours, en partie pour ça que je suis toujours un petit peu prudent quand on a des retours de personnes familières d'un projet, ou même que ça soit pour Apple aujourd'hui ou pour Twitter, ou pour quand il y a des gens qui disent non mais ça va se casser la gueule, c'est pourri, c'est la super mauvaise décision, tout le monde sait que c'est pas bien. Ok, c'est peut-être souvent le cas, et il y a évidemment des cas où c'est, il y a des choses très préoccupantes, mais on a toujours les retours de gens qui vont dire non, il faut pas le faire, et parfois faut quand même le faire, et quand on le fait, c'est un succès. Donc, c'est difficile de juger. Et en l'occurrence, l'iPhone, sur les retours qu'on a sur le Vision Pro aujourd'hui, les retours internes qu'on a, les rumeurs, les trucs comme ça, je suis convaincu qu'on aurait eu les mêmes avec l'iPhone. On aurait pu trouver des ingénieurs qui participaient au projet, qui disaient non, mais c'est pas prêt, ça fonctionne pas, il y a des problèmes ici, il y a des problèmes là. Et dans la pratique, on sait ce que ça a donné. Donc, l'iPhone, évidemment, moment essentiel, sans doute le moment le plus important des 20 dernières années de l'informatique, encore plus important que ce qui vient après, sans doute. Et j'insiste encore une fois, l'informatique, il y a un avant et un après iPhone, parce que avant l'iPhone, l'informatique, c'est des ordinateurs sur vos bureaux ou sur vos genoux ou dans les centres de serveurs. Après l'iPhone, ben, l'informatique, c'est un téléphone dans votre main, quoi. Et il y avait déjà des smartphones. Enfin, on pourrait parler de tout ça. Il y avait déjà des smartphones, mais c'était pas, c'est pas ceux-là qui ont conquis le monde, quoi. C'est le design de l'iPhone qui a fait que ça a fonctionné. Comme on l'a fait, on l'a vu avec énormément d'autres choses du côté d'Apple. Et alors là, vous vous dites, mais t'es parti sur ta tirade d'Apple. Il y a quand même d'autres choses qui se sont passées dans ces années-là. Et vous n'avez pas tort, puisque tout Internet, alors moi j'ai parlé d'Internet au début des années 90 et puis j'oublie parce que, enfin j'oublie, je le mentionne plus parce que ça y est, c'est plié, Internet, moi j'étais déjà dedans à fond quoi. Je me souviens à quel point après avoir commencé à l'utiliser au début des années 90, la quête de ma vie c'était de réussir à avoir Internet à la maison. Je ne voulais que ça. Et du coup Internet a continué à se développer dans le courant des années 90, le grand public a commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Et puis avec l'arrivée des ordinateurs dans les maisons, je caricature, mais à cette période-là, fin des années 90, tout le monde a commencé à avoir des ordinateurs à la maison pour autre chose que juste le boulot. Bah, Internet a beaucoup aidé à ça. Et on a eu le développement bah, de ce qu'on connaît aujourd'hui, des GAFAM, que ce soit Google, Amazon, Facebook, un petit peu plus tard. Mais au cours des années, donc ça s'est développé de cette manière, ça a aussi évidemment conquis le monde. Il est évident que quand je dis Internet, je parle du développement d'Internet au début des années 90, de l'arrivée, je ne l'ai pas mentionné, mais l'arrivée de Mosaic, le premier navigateur qui repose sur les bases des protocoles Internet et qui, lui, pour le coup, a amené Internet au plus grand public. Et on pourrait parler du protocole W3 comme étant vraiment la maturation d'Internet et un moment essentiel, évidemment. Tim Berners-Lee et l'équipe du CERN qui développe Mosaic, c'est un moment essentiel, mais ça s'inscrit en fait dans une continuité, en fait c'est la révolution permanente d'Internet qui commence au début des années 90 et qui s'étend en fait de manière continue avec le bug de l'an 2000, l'explosion de la bulle Internet, la consolidation, l'arrivée des géants qui deviennent les GAFAM ensuite, le fait que Apple et Microsoft réussissent à survivre à tous ces changements qui ont atomisé des boîtes qui étaient massives et qu'on pensait dont elles seraient là pour toujours. Tout ça, c'est un petit peu un moment continu qui va du début des années 90 à, je dirais, milieu des années 2010, quelque chose comme ça, une période de 20 ans où les choses changent constamment et où tout bouge. Et je dirais que depuis le milieu des années 2010, peut-être, les choses sont quand même beaucoup plus stables. Et dans le domaine du net, on sait un petit peu comment ça marche, on sait un petit peu comment ça fonctionne, et il n'y a pas d'immenses changements. Je dis le milieu des années 90 parce que... le milieu des années 2010 parce que, encore dans les années 2010, on est au début de la manière dont l'informatique mobile va impacter l'informatique et la tech en général. On a encore, souvenez-vous, l'iPhone est annoncé en 2007, mais enfin, il ne s'impose pas dès son lancement. Il était très cher. À l'époque, 600 dollars, c'était très cher pour un téléphone. Il y avait Nokia, il y avait Motorola, il y avait des gens établis et ils ne sont pas disparus en une demi-seconde. Même Google, qui travaillait déjà sur Android, enfin, qui avait racheté le Android d'Andy Rubin, ils sont revenus, ils ont complètement jeté l'OS sur lequel ils travaillaient, qui ressemblait à ce qui se faisait en smartphone jusqu'alors, et ils sont repartis de zéro pour faire quelque chose qui ressemblait à l'iPhone. Et ça a pris du temps, tout ça. Donc, jusqu'en début des années 2010, je dirais 2012, 2013, les choses étaient vraiment mouvantes et il a fallu 5 ans pour que les choses se tassent un petit peu et qu'on arrive sur un template qui va être stable. Et j'inclus Internet là-dedans parce que les choses ont énormément changé tout au cours du début des années 2000 et jusqu'à début 2010 parce que ce qui se passe début 2010, je dirais sur les 5 premières années, 2010, 2011, 2012 à 2015, 2016, c'est que le streaming vidéo s'impose. Et quand je dis streaming vidéo, il y a évidemment Netflix qui prend son envol, on va dire, avec l'arrivée de House of Cards en streaming en 2011-2012. Donc, il commence à conquérir le monde et à impacter non seulement Internet, mais en plus la manière dont on diffuse et on fait des films et le cinéma dans son ensemble et la télévision. Qui a là aussi mis un petit peu de temps parce qu'ils ont tous leurs services de streaming aujourd'hui, mais ça fait quoi depuis le début de la pandémie qu'ils s'y sont vraiment, vraiment mis. Et ça, c'était il y a 4 ans. Donc, on est à la fin des années 2010. Donc, ça a pris un moment à impacter tout ça quand même. Donc, vraiment, je dirais que jusqu'au milieu des années 2010, c'était un changement permanent. Et j'ajoute à Netflix, parce que Netflix, c'est celui auquel on pense immédiatement, mais j'ajoute à Netflix le développement de services comme YouTube ou Twitch. Alors, il y a eu des concurrents qui ont été plus ou moins malheureux au cours des années, mais YouTube et Twitch sont inclus dans cette révolution du streaming vidéo parce que il faut pas oublier que YouTube, par exemple, est aujourd'hui le deuxième plus grand moteur de recherche du monde après Google. Donc, Google possède le plus grand moteur de recherche du monde et YouTube le deuxième plus grand moteur de recherche du monde. Et le fait de donner à tout un commun, au commun des mortels, à tout un chacun, au commun des mortels, la possibilité de devenir créateur, de producteur de vidéos, bah ça a changé. Là encore, il y aurait tout un épisode à faire sur toutes les manières dont ça a impacté notre quotidien. Parce que, encore une fois, c'est pas juste des gens qui vont tester des produits informatiques ou parler de jeux vidéo sur YouTube. Il y a l'ensemble des domaines de la société qui vont être impactés et qui vont... La diffusion de l'information est transformée, pas juste par texte, mais on va diffuser de l'information sur tous les sujets en vidéo. Et c'est le cas pour Twitch aussi, mais surtout pour YouTube. Donc, YouTube fait partie, s'inscrit pour moi... Il y aurait trop de choses à mentionner, en fait. Mais mi-90 à mi-2010, c'est la révolution permanente de tous les usages de tout sur Internet, y compris la vidéo, j'inclus Netflix, Spotify, enfin tous ces trucs-là. Et les podcasts, évidemment. on pourrait parler... là, si on parle de moments aussi importants que l'iMac et ce genre de choses, je ne sais pas si ça correspond, mais on pourrait parler de tout ça. Enfin, il y a YouTube, Twitch, les podcasts, le financement participatif, qui est un truc qui va de concert avec le fait de permettre à n'importe qui de produire, de faire de la production audio, vidéo, etc. De la même manière que le web a permis à n'importe qui de faire de la production, entre guillemets, d'écrit, de concurrencer, n'importe qui pouvait concurrencer les journaux, etc. Donc, tout ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais 95-2015, allez, on va mettre des dates arbitraires, la constante révolution du net, c'est un des moments évidents. Et du coup, on arrive à la fin. Et pour la fin... Oui, j'inclus TikTok là-dedans, hein, tous les réseaux sociaux. Enfin, Internet, c'est une série de 25 épisodes de discussion pour parler de tout. Donc, oui, le moment Internet qui dure 20 ans. Et j'inclus TikTok, même si on sort un petit peu de cette période-là. Mais le dernier moment dont on va parler succinctement, c'est évidemment l'arrivée, la maturation de l'IA générative. L'IA est présente dans tous ces services, dans tous ces produits depuis longtemps. Mais l'arrivée de l'IA générative l'année dernière avec Midjourney et les IA graphiques et en fin d'année dernière avec ChatGPT, c'est là encore un moment pivot dans l'histoire de la tech. Et on verra si ça se confirme parce que là on est encore relativement proche, mais déjà tout le monde l'utilise pour énormément de choses. Je crois que on prend pas beaucoup de risques quand on dit que c'est un moment que on peut mettre à côté de l'arrivée de macOS, la décision d'IBM de laisser Microsoft faire son OS, l'arrivée d'Internet, etc., etc. Donc l'IA générative spécifiquement, c'est un moment qui s'écrit encore, donc je ne vais pas trop en parler, mais je ne peux pas ne pas le mentionner. C'est pour moi un moment qui, au-delà de... l'importance pour l'informatique en général et pour la tech et pour le monde. Moi, dans cette période-là, je suis en train de suivre tout ça professionnellement et évidemment, je crois que j'ai lancé le rendez-vous tech en 2009. Et de toute cette période, les iPads, les MacBook Air, etc., il n'y a pas eu un truc qui soit aussi important que l'IA. Et pourtant, il y a eu des trucs importants. Hein. Mais il n'y a pas eu un truc qui soit aussi important que l'IA. C'est le moment où je suis la tech, le moment type Internet, type iPhone, type, je ne sais pas, MO5 à l'école ou Minitel. Donc l'IA, évidemment, le dernier moment que je mettrai en avant ici. Et on arrive au bout. Waouh ! Donc ça a duré, je ne sais pas, une petite heure pour passer en revue 40 ans de tech. Encore une fois, je suis sûr qu'il y a des moments qui sont importants pour vous que je n'ai pas mentionnés. Si c'est le cas, venez sur le Discord me dire quels étaient les moments importants pour vous. Et puis, si ça vous a plu, cette petite rétrospective, ce petit voyage, je vais faire le même pour le rendez-vous jeu avec les moments gaming qui m'ont marqué, qui sont mémorables, à la fois personnels et pour cette industrie. Donc, si ça vous a plu, vous pourrez faire un petit voyage de ce type-là dans un domaine un petit peu différent. Et moi, ça m'a bien plu de faire cet exercice, d'ailleurs. Donc, peut-être qu'on répétera avec des choses un petit peu plus précises un jour, on verra. Et du coup, bah, on se donne rendez-vous. Alors, la semaine prochaine, si tout va bien, c'est pas moi qui reviens, mais je reviendrai, je crois, la semaine d'après, en fonction de l'emploi du temps qu'on a fait. Mais donc, je suis encore en vacances. Mais je reviens bientôt. Je vous fais d'immenses bisous. J'espère. Ah oui, dites-moi aussi, au-delà du fait que si j'ai oublié des moments importants, dites-moi si ça vous a plu, ce petit voyage dans nos souvenirs et dans l'histoire. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre d'épisode un petit peu spéciaux. Peut-être que ça m'encouragerait à en refaire d'autres. Hein. Donc, je suis preneur de tous vos retours, que ce soit sur Twitter ou sur le Discord. Et donc, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans très peu de temps. Prenez soin de vous, bonnes vacances, ciao ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.